Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les 50 ans de l'amitié franco-allemande célébrés jusqu'à Rome. Un débat était organisé jeudi au sein de l'Université pontificale grégorienne avec notamment Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers. À cette occasion, Benoît XVI envoyait un message rappelant le prix de cette amitié et son importance pour la paix. Catholiques et luthériens s'apprêtent à publier une déclaration louant la compréhension mutuelle engrangée depuis 40 ans. Le cardinal Kurt Kohr, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, revient sur les avancées et les problèmes rencontrés dans le dialogue avec les protestants. La Tunisie, arrêtée à l'occasion des obsèques de Chokri Belaïd, cet opposant assassiné mercredi. Le père Jawad Alamat, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires de Tunisie, revient sur les derniers événements qui secouent tout le pays. La voie de la réconciliation encore longue en République centrafricaine, c'est ce que nous verrons avec l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalenga, à l'occasion de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Français et Allemands fêtent cette année les 50 ans du traité de l'Élysée qui scella officiellement la réconciliation entre les ennemis d'hier. Cette amitié est célébrée également à Rome. Jeudi, l'université pontificale grégorienne abritait un débat dont le thème était « 50 ans d'amitié franco-allemande au service de l'Europe, l'Union européenne, un modèle pour d'autres réconciliations ». Autour de la table étaient présents la ministre-présidente du Land de Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer et Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers. Ils sont arrivés à une conclusion commune, l'attachement à une amitié entre deux pays dont les affrontements meurtriers ont ravagé l'Europe. Leur réconciliation a été gage de paix pour tout le continent et de moteur de l'intégration européenne. Une relation privilégiée qu'il convient de préserver et d'approfondir. Qu'est-ce qui en fait cependant sa particularité? Élément de réponse avec Michel Barnier.
Sa singularité, c'est qu'elle est inscrite dans l'histoire et dans l'avenir. Il s'agit d'une réconciliation par rapport à ces trois guerres civiles, pour reprendre un mot de Victor Hugo, que nous étions livrés les uns contre les autres depuis 1870. Et comme l'a dit le général de Gaulle avec Konrad Adenauer, il ne s'agissait pas seulement du passé, ne rien oublier, mais dépasser ces conflits. Il s'agissait aussi de construire l'Europe nouvelle. Et c'est ça la singularité de cette réconciliation, c'est qu'elle est à la fois liée, non pas à l'oubli, mais au dépassement du passé, aux leçons du passé, et en même temps à un projet d'avenir qui continue.
Évidemment, on a l'impression que l'amitié franco-allemande est quelque chose qui est maintenant acté, qui perdure, va perdurer. Et pourtant, à chaque moment de crise, comme par exemple ces derniers temps avec la crise économique, souvent des clichés, des stéréotypes ressurgissent. Est-ce que c'est quelque chose qui peut miner cette relation particulière qu'ont les deux pays ?
Franchement, je ne le crois pas. Dans l'histoire de ces 60 ans, jamais ça n'a été spontané. Il y a souvent eu des positions différentes au départ. Besoin de rapprocher et d'abord de se confronter sur des projets ou sur des dossiers ou sur des lignes politiques pour finalement arriver à une position commune. Donc la relation franco-allemande, elle n'a pas été spontanée, elle n'est pas tombée du ciel, elle a été construite par la volonté des dirigeants et des parlements et des gouvernements. Et c'est précisément ce que nous faisons dans la crise financière. La monnaie unique, il y a une dizaine d'années, a été d'abord un projet franco-allemand pour que nos monnaies nationales ne soient plus dominées comme l'était déjà par la monnaie américaine ou chinoise. La supervision bancaire, qui est une raison de la confiance dans le système financier français-allemand, l'ont demandé ensemble, et je suis en train de la construire à leur demande. Donc, mon opinion, c'est que même s'il y a des positions différentes, parfois des intérêts différents, cette responsabilité, cette idée qu'il faut finalement agir ensemble et avancer ensemble, elle est plus forte.
Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers, au micro d'Olivier Tosserie. Le Saint-Siège était aussi représenté lors de cette soirée promue par les ambassades de France et d'Allemagne en la personne de Mgr Bamberti, le secrétaire pour les relations avec les États. Il a lu un message de Benoît XVI qui a appelé Français et Allemands à poursuivre leurs efforts pour éviter que leurs projets ne soient minés par les nouveaux défis et les intérêts particuliers à court terme. Antonino Gallofaro.
Benoît XVI, pape allemand, ne pouvait que se montrer sensible aux festivités organisées à l'occasion des 50 ans de la signature du traité de l'Élysée. Dans son message, le pape a tout d'abord évoqué le souvenir de deux grands protagonistes de l'Europe d'après-guerre, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Cet anniversaire rappelle ainsi l'engagement personnel des pères du traité qui, avec leur participation à la messe de réconciliation dans la cathédrale de Reims, mirent en relief que la politique se fonde sur des principes qu'elle ne peut pas se donner à elle-même. Benoît XVI revient ainsi sur la loi morale naturelle, inscrite par le Créateur dans le cœur des hommes, les valeurs et les droits de l'homme modelés par l'Évangile qui constitue le fondement d'une politique qui se met au service de la justice et de la paix, ainsi que du progrès de la famille humaine tout entière. De cette leçon, le pape en tire cette conclusion qui sied au gouvernement d'aujourd'hui. L'action politique devra se construire sur ce fondement afin que tout ce qui a été atteint ensemble ne soit pas sapé par de nouveaux défis et par des intérêts particuliers aveugles ou ne soit pas non plus abandonné. Benoît XVI, qui a vécu tous les grands événements qui ont bouleversé l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui connaît plus que d'autres sans doute le prix de cette paix, rappelle en guise d'avertissement que cette paix justement est une tâche qui dure et qui doit toujours être accomplie à nouveau.
On ne parle pas de réconciliation, mais de compréhension mutuelle engrangée depuis 40 ans entre catholiques et luthériens. Dans un entretien accordé à l'AFP, le cardinal Cor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, annonce que catholiques et luthériens vont publier prochainement une déclaration qui retracera le chemin parcouru depuis le Concile Vatican II, mais qui reconnaîtra aussi que leur chemin continue de diverger sur les questions fondamentales de la vie. Du conflit à la communion, c'est le nom de ce texte long de 30 pages actuellement en cours de traduction. Le cardinal, en charge donc du dialogue avec les autres confessions chrétiennes, revient sur les récentes avancées en la matière. Hélène Détombe.
Le poids de l'histoire est tel que ce n'est pas toujours facile de discuter, que ce soit avec les protestants ou les orthodoxes, reconnaît le cardinal Cor. On avait dit que la foi divise et l'agir unit. Aujourd'hui, on doit affirmer le contraire, déclare-t-il, au sujet des relations entre catholiques et protestants. Mais la tâche demeure difficile, car sur les questions fondamentales de la vie de l'homme, les points de désaccord sont nombreux, comme la pratique de la bioéthique, admet-il. Or, c'est fondamental pour la voie du christianisme dans notre société, s'il n'y a pas de communion sur des questions fondamentales de la vie de l'homme, c'est très difficile. Autre pierre d'achoppement, selon lui, l'absence de but commun dans l'œcuménisme. Pour les catholiques, l'objectif reste l'unité visible dans une église unique, corps du Christ. Et pour les protestants, la revendication est résumée par le concept de reconnaissance mutuelle. Le dialogue avec les luthériens n'est jamais de tout repos, comme l'a montré récemment un début de polémique concernant l'hypothèse de proposer aux luthériens déçus par leur église, un ordinariat pour rejoindre l'église catholique, comme c'est le cas pour les anglicans. Rien de tel n'a été envisagé par la congrégation pour la doctrine de la foi, affirme le cardinal Cor. Tout est parti d'une question posée à Mgr Müller, le préfet de la congrégation, sur cette éventualité. Mais au-delà des anicroches, le cardinal Cor tient à souligner la reconnaissance mutuelle du baptême. L'œcuménisme doit être aussi un œcuménisme baptismal.
Hélène Détombe. Et concernant les relations avec les orthodoxes, le cardinal Cor reconnaît qu'avec les 15 églises orthodoxes, le dialogue n'est pas facile et que la question de la primauté du pape reste la question fondamentale qui fait problème. Ce vendredi, Benoît XVI rencontre 190 séminaristes et leurs professeurs au séminaire pontifical romain majeur. Le pape leur donne une lectio divina avant de s'entretenir et de dîner avec eux. Pour Benoît XVI, c'est toujours l'occasion de livrer une profonde réflexion sur l'appel au sacerdoce. Benoît XVI, qui a appris avec tristesse la nouvelle de la disparition du cardinal Kelly, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, cet ancien président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, était âgé de 94 ans. Le pape a envoyé un télégramme à l'évêque d'Asti, diocèse situé dans le nord-ouest de l'Italie et d'où était originaire le cardinal. Benoît XVI se rappelle de la collaboration précieuse et appliquée que le défunt cardinal a toujours prodiguée pendant des décennies au siège apostolique. Entré au service de la diplomatie vaticane, le cardinal Kelly a occupé divers postes au Guatemala, en Espagne et en Italie, avant de travailler à la secrétairerie d'État. Il a également été observateur du Saint-Siège près des Nations Unies. Pour Benoît XVI, il laisse le témoignage d'une vie passée dans l'adhésion cohérente et généreuse à sa propre vocation de prêtre. Ses obsèques auront lieu ce samedi en la basilique Saint-Pierre. La cérémonie sera présidée par le cardinal Sodano, doyen du Collège cardinalis. La Tunisie, enfermée sur sa douleur et sa colère. Ce vendredi, aucun vol n'atterrit ni ne décolle du pays. La grève générale, à l'appel du principal syndicat tunisien, est extrêmement suivie. Une telle paralysie est une première depuis le 14 janvier 2011, le jour de la chute du régime de Ben Ali. Cette grève, en fait, c'est pour protester contre le climat de violence politique qui règne dans le pays. Pour protester aussi contre l'assassinat mercredi de l'opposant Chokri Belaïd. Ses funérailles ont rassemblé ce vendredi dans le sud de Tunis une foule d'au moins 5000 personnes. Comme lors des manifestations de jeudi et de mercredi, la foule scande des slogans contre le parti au pouvoir, le parti islamiste Ennahda. Pour apaiser les esprits, le Premier ministre a tout de même promis de former un gouvernement apolitique. Mais cet assassinat, ces annonces politiques et la colère de la rue sont autant d'événements qui constituent un tournant pour la Tunisie, selon le père Jawad Alamat, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires de Tunisie.
C'est un tournant encore plus important de ce qui a précédé il y a 2 ans, j'affirme cela, parce que ici, on n'est pas en train de se révolter contre un régime ou contre un groupe ou un clan qui profite du pays, mais on est en train de défendre ceux qui ont voulu tuer la parole de vérité, la parole de liberté, et ce que les Tunisiens rêvent et qui ont voulu par leur première révolution.
Est-ce que les Tunisiens sentent vraiment que cette liberté pour laquelle ils se sont battus depuis la chute du président Ben Ali est en train de leur échapper en quelque sorte ?
Les Tunisiens ont vécu, nous aussi avec eux, comme église proche, l'église solidaire et les proches. Sans être des Tunisiens, nous ne sommes pas une église faite des Tunisiens, nous sommes une église faite de l'Église universelle parce que nous sommes de 70 nationalités, mais nous sommes très proches du peuple tunisien. Eh bien, les Tunisiens, ils ont vécu, et non avec eux, une lune du miel après la Révolution. Et après, cette lune de miel est devenue une dépression populaire parce qu'ils avaient l'impression que la Révolution pour laquelle ils sont descendus dans la rue et les valeurs pour lesquelles ils voulaient défendre ont été volées. Et c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prendre leur révolution et leur pays en main. Et du coup, cette dépression est devenue vraiment générale. Et en même temps, là, j'ai l'impression qu'avec l'assassinat de Belaïd, il y a un réveil de la conscience populaire. Il y a une audace, un courage qui se réveille pour dire non. On ne peut plus accepter cela, on redescend et on va redéfendre, mais de manière encore plus forte, ce pour lequel nous nous sommes battus.
Est-ce que vous sentez que la société tunisienne s'est radicalisée en quelque sorte ? Et est-ce que cet assassinat n'est pas aussi l'aboutissement de cette radicalisation en quelque sorte ?
J'éviterais la société tunisienne comme ça en général, parce que c'est une grande société, la société tunisienne. C'est un grand peuple qui est très ouvert et qui a l'ouverture dans son histoire et dans son sang. Il n'a pas le choix. Il doit faire un effort pour être radical ou radicaliste, le Tunisien. Donc, un groupe de la société, ou une partie de la société tunisienne a été absolument radicalisée. Et c'est ça, en fait, qui a fait tout ce qui s'est passé. Et donc, cet assassinat, c'est vraiment la déclaration la plus forte de cette guerre, de ce petit groupe contre un esprit beaucoup plus large et beaucoup plus majoritaire.
La crise économique que vit le pays en ce moment, la grave crise économique que vit ce pays, n'a évidemment rien arrangé à tout ça, au climat actuel.
Ils ont fait la révolution tunisienne au moment où l'Europe entrait en crise, alors que l'Europe, c'est l'unique partner économique de la Tunisie sur lequel il s'appuie. Il y a une amitié historique entre l'Europe, vu la proximité aussi géographique. Donc on est arrivé dans un moment où l'Europe elle-même a besoin de soutien. La question économique a joué énormément pour manipuler un groupe de personnes pour qu'ils puissent être radicalisés.
Des propos recueillis par Thomas Chabol. Et on termine ce magazine avec un autre pays d'Afrique qui connaît lui aussi une crise politique depuis au moins 2 mois et demi. La République centrafricaine, où la population connaît une lueur d'espoir. Un gouvernement d'union nationale a en effet été finalement formé. La rébellion du Séléka a décidé d'y participer, in extremis. Elle avait en effet dans un premier temps suspendu sa participation au nouvel exécutif prévu par les accords de paix signés le 11 janvier dernier à Libreville, au Gabon. Les rebelles ont ainsi obtenu le poste clé de la défense pour leur président, Michel Djotodia, nommé également vice-premier ministre. Mais ce gouvernement reste encore bien fragile. Le Séléka se plaît ainsi encore de la place importante que le camp du président Bozizé a conservée dans la nouvelle équipe. Ce gouvernement va-t-il donc vraiment rétablir la confiance dans ce pays rongé par l'insécurité ? Nous avons posé la question à Mgr Dieudonné Dzapalenga, il est archevêque de Bangui.
Nous sommes à la croisée du chemin où nous pouvons changer le cours de l'histoire de ce pays en le basculant sur le chemin de vie, chemin d'espérance, comme en le basculant sur le chemin de la mort, de la destruction. Et nous osons croire que tous ceux qui sont dans ce gouvernement, que ce soit la majorité, que ce soit le Séléka, le moment est venu pour les uns et les autres aussi de penser au peuple centrafricain pour lequel ils se battent, pour vraiment défendre ce peuple et répondre à ces besoins qui sont les besoins élémentaires. Il vient de parler vraiment de manger, de boire, de se vêtir, de dormir, de se soigner, aller à l'école. Voilà les besoins élémentaires pour le peuple centrafricain qu'on devait vraiment satisfaire. Et j'espère vraiment que ce sera l'occasion pour les uns et les autres de taire les intérêts particuliers pour voir l'intérêt national maintenant.
Quelle a été, Monseigneur, la réaction de la population lorsque le gouvernement d'Union nationale a été annoncé ?
Pour la population lambda que j'ai vue à travers la rue, ce fut un ouf de soulagement. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des résistances, il y avait des refus, il y avait des hésitations. Et Dieu merci, les uns les autres reviennent au bon sentiment. C'est ce que nous sommes en train d'assister. Et vraiment, c'est le moment, encore une fois, pour que le bon sentiment habite les uns les autres, pour que nous respectons l'accord de Libreville, que nous respectons les signatures apposées, que nous allégeons la souffrance du peuple centrafricain.
Quel est le grand chantier auquel doit désormais s'atteler ce gouvernement d'union ?
Un des premiers chantiers actuellement, c'est la sécurisation de ce pays. Ce pays a beaucoup de frontières. Et cette frontière, les gens arrivent de partout, rentrent et sortent comme ils veulent. Il va falloir que ce gouvernement s'attelle avec le concours des amis ou bien de la communauté internationale aussi pour pouvoir sécuriser cette frontière, nos frontières, pour que les Centrafricains puissent se sentir heureux dans leur pays. La pacification de ce pays marqué par l'insécurité, par déjà les guerres, les conflits, des morts. Il va falloir pacifier ce pays, permettre à des populations de se retrouver pour vivre ensemble et travailler ensemble. Or, actuellement, nous avons des gens qui errent dans la brousse, nous avons des gens qui sont considérés comme des parias alors qu'ils sont envoyés dans l'intérieur du pays pour accomplir les devoirs d'État. Et maintenant, ils sont devenus des parias.
Et le rôle de l'Église aujourd'hui en Centrafrique, quel est-il ?
Travaille pour la réconciliation. Il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités et reconnaître aussi les fautes commises et accepter de faire des pas, faire des concessions. Et l'Église propose aussi ses moyens à la fois humains et aussi matériels pour que des uns et des autres puissent se retrouver pour se dire, vider le sac. Et ceux qui ont pris des armes puissent se parler. Ceux qui n'ont pas pris des armes ou qui ont été victimes puissent parler. Ainsi, nous pourrons aussi avoir le cœur net pour repartir. Sinon, ça sera l'éternel recommencement. Voilà des grandes questions que l'Église pose aussi aux intellectuels et aussi aux responsables politiques de ce pays. Et l'Église est toujours disposée à apporter sa contribution.
Un des propos recueillis par Thomas Chabol et que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.